à contribution en chantant pour les soldats alors au front. Et elle participe également en tant que IPSA, c'est-à-dire infirmière pilote secouriste de l'air, affectée à la Croix-Rouge, à la réception des réfugiés belges et hollandais. Alors du 24 décembre au 17 janvier 1941, elle va jouer le rôle de Dora dans la Créole à l'Opéra de Marseille. Et en 17 janvier 1941, elle s'embarque sur un paquebot à destination d'Alger avec pas moins de 28 malles. Bon, vous me direz, il faut de la place pour mettre toutes les tenues de scène, hein, mais bon. Et des cages pour ses divers animaux, parce qu'elle a des chiens, singes, oiseaux, voilà, son guépard, voilà. Donc elle voyage avec toute sa ménagerie. Et puis, le temps de donner quelques galas à Alger, elle part pour Casablanca, au Maroc, pour obtenir un visa auprès du consulat du Portugal, où elle projetait de faire une tournée. Finalement, elle s'installe à Marrakech, d'abord à la Mamounia, puis dans le Riad de la Médina. À Marrakech, elle va fréquenter assidûment Si Mohamed Menebi, qui est le fils de l'ex-grand vizir. Ça fait rêver, hein.
Alors de juillet 41 à décembre 42, elle a séjourné à la clinique Mère Sultan à Casablanca à la suite d'une péritonite avec nombreuses complications. Elle reçoit à la clinique de nombreuses visites, dont celle des vice-consuls américains. Après sa maladie, Joséphine Baker se produit sur scène pour la première fois le 20 mars 1943 à Casablanca, lors de l'inauguration des clubs de la Croix-Rouge ouverts aux soldats alliés présents en Afrique du Nord, présents à la suite du débarquement de novembre 1942. Le club dans lequel Joséphine a donné son premier gala était réservé aux soldats américains de couleur, car la ségrégation raciale régnait au sein des armées américaines. Et c'était complètement... on ne pouvait pas passer outre, quoi. Et à la suite de ce premier spectacle, Joséphine est engagée au célèbre cinéma-théâtre de Casablanca, le Rialto, pour une série de concerts payants qui permettent de renflouer ses caisses et ainsi de survivre jusqu'à la fin de la guerre, car désormais... Toutes les représentations qu'elle va donner vont être bénévoles. Comme le dernier gala, par exemple, qu'elle donne au Rialto le 30 avril 1943 au bénéfice de la Croix-Rouge, ou comme la tournée qu'elle effectue ensuite dans les camps de GI américains en Algérie. Le 13 août 1943, elle va participer au grand gala à l'Opéra d'Alger, sous la présence effective du général de Gaulle. Il était là en chair et en os. À la fin de la représentation, de Gaulle lui fit parvenir, ou lui donna d'ailleurs directement, je ne sais pas trop, là, une petite croix de Lorraine en or. Alors c'était ce qui avait été choisi pour mettre sur les avions, un peu pour faire un truc contre la croix nazie, quoi. Voilà, enfin, c'est la croix gammée. C'était très symbolique. Avant, c'était libre. Autre chose, mais ça a même été au départ, c'était une relique, en fait. Elle l'aurait revendue. On dit qu'elle aurait revendu cette médaille aux enchères quelques semaines plus tard au bénéfice de la résistance.
Voilà, pour remplir les caisses, de la résistance. Alors. Voilà, je vous propose d'écouter un autre morceau qui s'appelle « Mon cœur est un oiseau des îles ».
Car tout mon lit Mon cœur est un oiseau désir qui ne chante que pour l'amour. Tu m'as souri gentiment au réveil, c'est mon soleil. Tu m'as donné de la joie, de l'espoir jusqu'au soir. Est un oiseau désir qui ne chante que pour l'amour. Oui, c'est
l'amour. Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Alors, elle va sillonner toute l'Afrique du Nord et le Proche-Orient en jeep. Elle va faire plus de 3000 kilomètres comme ça. À la suite d'un gala donné à Alger en 44 au bénéfice de l'entraide de l'aviation, donc elle va être officiellement engagée dans l'armée de l'air comme officier de propagande avec le grade de sous-lieutenant. Alors cet engagement dans l'armée de l'air est à mettre en relation avec le fait qu'elle avait passé quand même son brevet de pilote en 1938. Elle signe une déclaration d'abandon de sa solde au profit de l'hôpital d'Alger, avec une autorisation du général Bousco de revêtir une tenue bourgeoise. Elle apparaît pendant cette période aussi bien en uniforme qu'en tenue de scène. Voilà. Alors, après la libération, elle poursuit ses activités pour la Croix-Rouge. Elle chante pour les soldats et les résistants près du front, suivant avec ses musiciens la progression de la première armée française. Et elle sera démobilisée en 1945. Alors, ses activités lui vaudront la médaille de la résistance française avec rosette. Et puis, le 19 août 61, dans son château des Milantes, elle reçoit aussi les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre, avec la palme, qu'elle reçoit des mains du général Martial Valin, à la suite de l'intervention du ministre de la Défense, Jacques Chaban-Delmas.
Alors, c'est un peu une touche à tout, on va dire, avec succès.
Elle est sur tous les fronts,
Donc, on va parler d'un registre très différent. Elle devient ambassadrice de la haute couture française, notamment après la Seconde Guerre mondiale. La France est très pauvre, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour promouvoir la haute couture, et Joséphine Baker était très amie avec Christian Dior, Pierre Balmain, et donc il l'habillait, elle portait des merveilleuses robes... ambassadrice de la haute couture.
Alors, elle lutte aussi contre le racisme et l'émancipation des Noirs. Alors, elle va retourner aux États-Unis en 1947 et aussi en 1951 pour tenter de renouer avec le succès. Mais... ça va être plutôt un échec. Hein. Elle va faire un passage dans les Ziegfelds Follies. Et elle n'obtient pas le succès qu'elle espérait. Elle sera victime aussi de ségrégation raciale, notamment lors de l'incident du Stork Club, où elle est rentrée. On l'a laissée rentrer parce qu'elle était connue, mais on n'a pas voulu la servir parce qu'elle était noire. Voilà. Donc... Et du coup, donc elle accuse un journaliste, voilà, de pas l'avoir défendu. Et donc celui-ci, bah, il est agacé, voilà, qu'on lui reproche ça. Donc il va décider de briser sa réputation en la traitant de communiste et d'ennemi du peuple noir. Voilà. Elle met alors sa grande popularité en service de la lutte contre le racisme et pour l'émancipation des Noirs, en particulier en soutenant le mouvement américain des droits civiques. En 55, par exemple, elle amplifie en Europe aussi la vague d'indignation soulevée par le meurtre au Mississippi, hein, d'un jeune Afro-Américain, suivi de l'acquittement des deux assassins, puis de leurs aveux cyniques après le jugement, une fois assurés de leur impunité. Alors, dans les années 60, elle milite aussi contre la politique d'apartheid instaurée en Afrique du Sud et elle va retourner aux États-Unis pour soutenir le mouvement des droits civiques du pasteur Martin Luther King et elle participe à la marche sur Washington où il y avait quand même 250 000 personnes pour l'emploi et la liberté organisée qui a été organisée donc par Martin Luther King. Et donc, vous savez, c'est ce fameux discours de Martin Luther King où il dit « I have a dream ». Alors, elle va prononcer un discours aussi, vêtue de son ancien uniforme de l'armée de l'air française et avec toutes ses médailles de résistante sur la poitrine. Voilà. Donc, c'est là quand même la seule femme à avoir pris la parole à ce moment-là. Alors, en 1938, elle s'est également engagée dans l'action de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui deviendra la LIGRA en 80. Rapprochement traduit sa sensibilité au sort des Juifs, notamment son mari à l'époque, qui était confronté à un antisémitisme croissant. Alors, là, on va passer dans une petite chanson plus exotique. Alors, que tout le monde connaît, et elle a été interprétée par plein de personnes différentes. Allez.
C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son anamite. Je suis vivre, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, satanquinoise. D'autres lui ont les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Soir en cause de tas de choses, avant de se mettre au pied, au pardon, j'apprends la géographie, la Chine et de la Manchourie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Y a même l'amour, c'est curieux, qu'arrose l'empire du milieu. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmant, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. D'autres lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux.
On peut peut-être préciser aussi que la carrière de Josephine Baker était très très liée au mouvement de la Renaissance de Harlem. Elle fut une militante acharnée. C'était d'abord un mouvement littéraire qui a pris sa source à Harlem, mouvement de renouveau de la culture afro-américaine dans l'entre-deux-guerres. Et ce mouvement prenait l'émancipation des Noirs américains confrontés à la ségrégation raciale depuis l'abolition de l'esclavage en 1865. Il regroupait des intellectuels et écrivains comme Alain Locke, Marcus Garvey, des mécènes tels que Arthur Schoenberg, surnommé le père de l'histoire noire américaine, des photographes et sculpteurs, ainsi que des musiciens tels Louis Armstrong, Duke Ellington, Fats Waller. Les lieux emblématiques du mouvement de renaissance de Harlem comptaient le Cotton Club et l'Apollo Theater.
Alors, elle va aller aussi à Cuba. Elle va faire plusieurs tournées. Elle est confrontée également au racisme là-bas, hein, quand on lui refuse une chambre d'hôtel, par exemple, à l'Hôtel National. Elle s'est engagée à créer une organisation d'Amérique latine contre le racisme, proche du couple présidentiel argentin, Juan et Eva Perón. Elle ouvre une antenne à Buenos Aires aussi et cherche à essaimer dans le sous-continent, donc notamment à Cuba. Elle est reçue par Batista, mais celui-ci est mis en garde par le FBI et la mafia, et donc il va la traiter avec mépris. Et le fait que des militants anti-Batista assistent à ces shows n'aide pas évidemment à sa situation. Elle est donc de nouveau en tournée à La Havane en 1953. Il va y avoir une manifestation étudiante sur le Madison, violemment réprimée par le régime, et un jeune homme est tué. Sa dépouille est exposée dans le grand amphithéâtre de l'université, et Joséphine s'y rend afin d'assister à la veillée funèbre. Il va y avoir des milliers de manifestants qui sont conduits par Fidel Castro. Alors, Joséphine aurait ensuite décidé d'offrir les bénéfices d'un concert au parti castriste. Et donc, le 18 février, elle est arrêtée par les services des renseignements militaires de Batista, interrogée. Finalement, elle va être relâchée grâce à des diplomates français. Alors, elle est questionnée sur son prétendu communisme. Elle nie, même si le FBI indique qu'elle s'était produite pour la SFIO pendant le Front Populaire et qu'elle avait effectué des tournées en URSS en 1936. Elle finit sa tournée le même mois au Teatro Campo Alor, et elle promet de ne plus revenir à Cuba tant que le régime de Batista ne sera pas tombé.
Alors, en décembre 65, elle retourne à Cuba, en fait, invitée par Castro, qui a pris le pouvoir quelques années plus tôt. D'autres personnalités sont présentes, comme les écrivains Alberto Moravia, Mario Vargas Llosa, et le couple Régis Debré et Elisabeth Burgos. Il se tient alors à La Havane un événement d'importance, un rassemblement de dirigeants du tiers-monde, Afrique, Asie, Amérique latine, la conférence tricontinentale. Cette conférence vise à émanciper ces pays des sphères d'influence soviétique et chinoise. Le FBI, qui dispose d'un dossier sur Joséphine Baker à cause de son soutien aux Afro-Américains, pourrait avoir pensé qu'elle y était l'envoyée du général de Gaulle, dans un contexte où la France envisage de faire sortir son pays de l'OTAN. De même, le contre-espionnage cubain cultive des doutes. En réalité, sa présence est, en tout cas c'est ce qu'elle affirme, la poursuite de ses engagements antiracistes. Elle déclare ainsi dans une interview au quotidien Grandma: la tricontinentale, c'est formidable, avec ces gens de tous les pays, toutes les langues, toutes les couleurs. C'est une chance inouïe d'avoir un public pareil, toute la race humaine réunie en une seule famille. Oh, c'est beau. Avant le début de la conférence, elle rencontre Fidel Castro, le met en garde sur le fait qu'on va essayer de l'assassiner. On ne sait pas de qui elle tient cette information, mais il est à noter qu'au moment même, des réseaux anti-Castro et des tentatives d'attentat sont neutralisés. Elle se fait remarquer pour son enthousiasme politique, chantant au siège de la délégation du Nord-Vietnam, se faisant acclamer place de la Révolution, jouant au théâtre Garcia Lorca devant Castro. L'une de ses prestations est même diffusée en direct à la télévision cubaine, et elle enregistre un disque. On n'arrête pas. Avant son départ, Castro l'invite à se rendre à la baie des Cochons, où un débarquement soutenu par les États-Unis avait échoué en 1961. Devant les journalistes, elle déclare « Je suis heureuse d'avoir été le témoin du premier grand échec de l'impérialisme américain. »
Wow.
Oh là là.
Et donc elle va quitter l'île de Cuba à la fin du mois. Elle promet de revenir en juillet, ouais, parce qu'elle est invitée par Castro à passer ses vacances avec ses enfants. Mais là, elle va avoir des problèmes de santé, donc elle est hospitalisée. Et là, donc à Paris. Et De Gaulle va lui envoyer une immense gerbe de fleurs. Hein, voilà. Et l'été, elle va retourner à Cuba. Elle va retrouver le chef d'État cubain. Et on lui remet un brevet de lieutenant des forces armées révolutionnaires cubaines. Et donc à la mort de Che Guevara, va écrire une lettre de condoléances à Castro. Voilà. Alors, on va passer à un autre sujet qui tenait très à cœur à Josephine Baker. C'est son château des Milandes et sa tribu arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que tu nous en dis?
Après une grossesse à l'issue de laquelle Josephine Baker avait accouché d'un enfant mort-né, elle contracte une grave infection postpartum et elle subit l'ablation de l'utérus, l'hystérectomie à Casablanca en 1941. Donc elle ne peut plus avoir d'enfant. Avec Joe Bouillon, chef d'orchestre de renom qu'elle épouse en 1947, on compte plus ses conjoints, hein, quand même. En tout cas, elle a eu se marier.
Elle a eu 5 maris.
elle aime se marier.
Et de nombreux amants, hein, mais bon, voilà.
Oui, mais elle se marie quand
voilà,
même.
Voilà, 5 maris officiels. Ouais, ouais.
Elle achète le château des Milandes en Dordogne, qu'elle loue depuis 1937, et où elle vivra jusqu'en 1969. Elle y accueille 12 enfants de toutes origines, des enfants qu'elle a adoptés et qu'elle appelle sa tribu arc-en-ciel. Joseph et Joe Bouillon avaient ce même idéal de fonder un village du monde, une capitale de la fraternité universelle, pour montrer au monde entier que des enfants de nationalités et de religions différentes peuvent vivre ensemble dans la paix. L'amour de Josephine Baker pour les enfants en général était inébranlable, à tel point qu'au retour de ses tournées, elle n'hésitait pas à ramener dans son paradis des Milandes un nouvel enfant en manque d'amour ou dans le besoin. Tous ces enfants formaient donc la fameuse tribu arc-en-ciel, unie pour le pire comme pour le meilleur. Car au départ, il s'agissait surtout du meilleur. Bon, chaque enfant était entouré et choyé par une nurse, habillé comme des petits anges, vivait dans un château rayé, luxe, calme et amour. Et Joséphine a même créé un ramassage scolaire qui bénéficie à ses enfants, mais du coup qu'elle a étendu à ceux du voisinage pour qu'ils aillent à l'école de Castelnau. Mais au château, il y avait quand même un précepteur qui leur enseignait également la culture de leur propre pays. Voilà un petit peu comment ça s'organisait.
Donc il y avait un parc d'attractions, ils avaient fait
Oui, c'était le grand luxe, c'était très particulier quand même.
Alors on va vous passer une petite interview de Josephine Baker.
Ma grande joie, que j'étais enfin comme une autre, qu'il n'y avait pas de différence, que j'étais jugée exactement ma propre valeur, et pas parce que j'étais moi.
Oui, d'accord.
Vous comprenez ?
Je comprends très bien.
Et de là est développé ce désir de agrandir cette bonheur de se sentir un être humain, comme tous les êtres humains. Et je me suis demandé comment faire. J'ai vu à droite et à gauche qu'il y avait beaucoup de difficultés de s'entendre. Il y avait beaucoup de conflits.
Oui.
Entre les hommes de différents pays. Et alors je me suis dit, je vais adopter les enfants. Puisque je n'en ai pas moi-même, des enfants de différents continents, avec des différentes religions et croyances,
oui.
Pour prouver que l'homme, malgré son couleur, sa couleur, le continent auquel il vienne, ou même la religion qui a pratiqué leurs parents,
J'ai pas remis le son, excusez-moi. Problème technique. Il y a les prémices d'une faillite prévisible et donc qui vont mettre fin à tout ce bonheur.
luxueux.
Mais parce que, bon, elle a une tendance à,
beaucoup.
À dépenser beaucoup, mais elle se fait aussi avoir voilà, par des artisans qui lui redonnent les factures plusieurs fois, etc. Bon. Donc, elle va avoir des aides, notamment de la part de Brigitte Bardot, pour pouvoir maintenir comment son château des Milandes. Mais bon, finalement, il va falloir qu'elle lâche l'affaire. Et à ce moment-là, comment c'est la princesse
Grâce de Monaco qui une amie de la chanteuse qui
parce qu'elle était présente au Stork Club quand elle
Grâce de Monaco, elle est américaine, artiste comme elle, enfin bon. Donc elle lui avance les fonds nécessaires à l'acquisition d'une grande maison à Roquebrune. Grâce de Monaco invite aussi Joséphine Becker à Monaco pour des spectacles de charité, aidée aussi par la Croix-Rouge qu'elle avait auparavant bien aidée, faut bien dire. Joséphine Becker remonte sur la scène parisienne à l'Olympia en 1968, puis à Belgrade en 1973. Au Carnegie Hall. Au Royal Variety Performance, au Palladium de Londres en 1974. Enfin, voilà. Et à Paris, elle intervient au Gala du Cirque en 1974.
Voilà. Et en 1975, pour célébrer ses 50 ans de carrière, elle inaugure donc la rétrospective Joséphine à Bobino. Alors, c'est un spectacle qui est repris en ce moment à Paris. Ouais. Là. Voilà. Alors, bon, là, il y a le général de Gaulle, qui est le chant du général de Gaulle, qui est là, Sophia Loren, il y a Mick Jagger, Mireille Darc, Alain Delon, même Tino Rossi, bien sûr, la princesse Grâce de Monaco. Alors, on vous passe juste une petite interview de Joséphine, bien sûr.
Busco, no encuentro, serio, no siento, yo no sé vivir. Si me faltas tú, ba da 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 da.
C'est le costume que vous portez pour le final.
Premier final de notre pièce et notre show.
Et les décorations que vous arborez, vous les avez
gagnées sur le champ de bataille.
Quel effet ça fait de remonter sur la scène?
Bien. Agréable de pouvoir retrouver la famille. La famille pour moi, c'est tout le monde et surtout le public qui m'a fait. Aïe, bye, aïe, aïe.
Cette pièce raconte votre vie. Est-ce que ça vous fait pas un peu drôle de retrouver sur la scène l'histoire de sa vie?
Non, c'est agréable.
Oui.
Parce qu'au moins, je vois ce qu'on pense de moi pendant mon vivant.
Que devient votre nombreuse famille?
Ils grandissent, ils se marient. J'ai un garçon, un de mes fils, Louis, qui se marie le 31.
Vous avez 10 enfants?
Ben oui, non, 10 garçons et 2 filles.
12,
heureusement que les filles ne vous entendent pas.
Ils vont venir vous voir pendant le spectacle?
Non, ils font leurs études.
Vous regrettez?
Que les enfants ne viennent pas? Eh bien, c'est difficile de dire, parce qu'en ce moment, avec mes répétitions, le travail, il est bon qu'ils ne sont pas là. Parce que quand je suis avec mes enfants, j'oublie tout. Il n'y a que mes enfants qui comptent. Et en ce moment, il faut quand même j'ai du calme et de tranquillité pour pouvoir me donner entièrement à mon public de Paris.
Paris, Paname, Paris, Paname.
À toi.
Bon, j'avais... Désolée d'avoir interrompu.